Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de grand bien vous fasse. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Le prof de philo de l'émission. Tous les lundis, vous nous proposez une petite philo de la vie quotidienne. Ce matin, vous interrogez ce besoin vital de café au réveil, surtout le lundi matin.
Ben oui, parce que se réveiller, ben, ça n'a rien de mince à faire, Ali. Et puis si on a besoin de café, ben, c'est qu'il faut à la fois réveiller le corps et l'esprit.
À tout à l'heure. Bonjour Aline Perraudin.
Bonjour.
Directrice du mensuel Santé Magazine. Ravi de vous retrouver tous les lundis en fin d'émission. Vous évoquerez l'actualité de la santé par le biais d'études scientifiques parues récemment. Ce matin, vous vous intéressez à l'activité physique, notamment bonne pour le cerveau.
Pour tout, c'est un vrai médicament.
À tout à l'heure. Et ce matin, on s'intéresse à une maladie longtemps considérée comme imaginaire, la fibromyalgie, qui associe notamment douleurs musculaires et fatigue chronique. Une pathologie qui a eu du mal à être considérée comme une vraie maladie. Des malades longtemps vus comme des hypochondriaques, un peu comme le personnage de Jean-Pierre Bacri dans On connaît la chanson d'Alain René.
J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai les hanches qui se démangent.
Oh, d'accord, asseyez-vous mon cher monsieur, asseyez-vous. Bon écoutez, il n'a pas l'air trop mal ce cœur.
Pas trop mal, c'est-à-dire qu'il est quand même un peu mal. Ah,
vous parlez de palpitations, mais les palpitations, vous savez c'est un mot que les gens emploient à tout bout de champ et qui en définitive ne veut pas dire grand-chose. Et puis... Laissez palpiter, mon vieux. C'est normal que ça palpite. Il y a des tuyaux, des pompes là-dedans. Mais ça travaille, non? Allez, je ne vais plus vous voir ici.
Pendant longtemps, la fibromyalgie faisait donc passer ceux qui en souffraient pour des malades imaginaires. Mais c'est une vraie maladie désormais reconnue par l'Organisation Mondiale de la Santé. Nous verrons ce matin ce qu'est la fibromyalgie, quels sont ses symptômes, qui est principalement touché par une pathologie encore mal connue, comment la soigner, quelles sont les prises en charge thérapeutiques. Vous pouvez témoigner ou réagir à notre adresse grandbienvousfasse@radiofrance.com, sur Twitter avec le hashtag grandbienvousfasse et bien sûr au standard de France Inter. Paul et Johanna vous attendent au 01 45 24 7000, 01 45 24 7000.
France Inter, grand bien vous fasse, Ali Rébéi.
Bonjour docteur Patrick Gignès.
Bonjour Ali.
Comment allez-vous?
Très bien, je viens de Montpellier, 5h du matin, c'est un peu dur.
Je suis ravi de vous accueillir, vous êtes médecin anesthésiste au CHU de Montpellier, on est presque pays, moi je suis de Toulouse ou de Montpellier, on devrait bien s'entendre normalement.
Hein. Même région. Mais...
Vous êtes responsable au CHU de Montpellier du centre d'évaluation et de traitement de la douleur, et vous êtes par ailleurs président du collège des médecins de la douleur.
Honoraire.
Pouvez-vous m'expliquer ce qu'est la fibromyalgie que la plupart d'entre nous connaissons mal?
Peut-être que les médecins ne sont pas les mieux placés pour définir cette maladie. Ils l'ont souvent nié, donc les patients auraient... Vous auriez dû interroger la patiente qui est avec nous.
On va l'interroger.
Parce que la fibro, c'est un dérèglement, ça c'est sûr. Mais que vivent les patients? Un dérèglement généralisé d'un peu de tous les systèmes. Les trois principaux, c'est, vous l'avez pas cité dans l'introduction, c'est le sommeil. Dérèglement du sommeil qui est peut-être à l'origine de beaucoup de perturbations des autres phénomènes, c'est-à-dire douleurs généralisées, musculaires, articulaires, fluctuantes, variables. Et après, bien sûr, la fatigue. Tout ceci peut-être par le sommeil insuffisant, peut-être par cette fatigue qui ronge la vie quotidienne, la douleur qui ronge la vie quotidienne, cette fatigue qui est comme une grippe qui durerait des semaines, des mois, voire des années.
Pourquoi voilà. Cette pathologie déroute-t-elle la plupart des médecins? Le corps médical a longtemps est longtemps resté sceptique face à la fibromyalgie. Il n'y a pas de lésion, il n'y a pas d'inflammation, pas de virus pour expliquer cette pathologie?
Voilà, il n'y a pas tous ces éléments qui ont fait faire des progrès à la médecine. Durant les 30 glorieuses, on a découpé les maladies et on a trouvé beaucoup de causes. J'allais dire que ces 30 glorieuses, on a trouvé 80% des causes les plus visibles des maladies. Mais là, on est dans une phase où on découvre que les maladies, ce sont des dysfonctionnements, des mauvais réglages. Et je parle souvent de comparaisons comme les voitures. Avant, il y avait des pannes mécaniques aux voitures. Maintenant, il n'y a que des pannes électroniques. Votre voiture, on ne voit pas sa panne, mais elle existe réellement. C'est un peu pareil pour la fibro, où il y a eu très progressivement, insidieusement, des dérèglements des systèmes de réglage globaux du corps. Le sommeil, contrôle de la douleur et fatigue.
Et Jamila nous dit déjà par mail, la fibromyalgie n'est pas une maladie imaginaire, il faut le vivre pour le croire. Bonjour Cécile Barou.
Bonjour.
Ravie de vous accueillir ici dans Grand Bien Vous Fasse. Vous souffrez de fibromyalgie et vous êtes membre de l'association fibromyalgie.fr. Pouvez-vous nous raconter à quoi ressemblent les douleurs dont vous souffrez?
C'est un petit peu difficile à décrire.
On va y revenir tout au long de l'émission, mais certains malades affirment avoir mal, par exemple, à l'intérieur des os, par exemple.
Voilà.
Ils parlent de douleurs omniprésentes qui pourrit la vie quotidienne dans son ensemble.
C'est tout à fait ça. Une douleur qui se balade aussi, qui d'un seul coup est à droite, après à gauche, comme une bête à l'intérieur qui se promène et qui attaque toutes les parties musculaires, les tendons et les articulations. Et puis cette fatigue qui nous empêche de bien gérer aussi cette douleur et tout se mélange ensuite.
Cécile Barrou, avez-vous le sentiment que votre pathologie, votre maladie est aujourd'hui bien reconnue par le corps médical et par votre entourage ?
Alors, par mon entourage, oui, maintenant, puisqu'il a quand même fallu pas mal de temps pour expliquer, pour faire comprendre aux gens ce que c'était. Par les médecins, oui, certains, mais il y a toujours les médecins fibrosceptiques. Et beaucoup de gens sont malheureusement mal reconnus.
Et pourtant, c'est une maladie reconnue par l'Organisation mondiale de la santé.
Depuis 92.
Oui, par le professeur Kahn.
Mais la santé, c'était un groupe d'experts qui avait déjà en 92 calé ce symptôme, ce syndrome. Mm. La France a été un peu plus tardive, c'est 2006 qu'il y a eu une reconnaissance aussi.
Par l'Académie de médecine.
Voilà.
Bonjour Aline Perraudin.
Bonjour.
Directrice du mensuel Santé Magazine. Alors vous consacrez un papier à un traitement alternatif de la fibromyalgie qui reste, on le verra tout à l'heure, assez difficile à soigner.
Oui, mais on parle justement de d'autres traitements que les médicaments et on aborde notamment la musicothérapie qui peut aider des patients puisqu'il y a plusieurs essais cliniques qui ont démontré ces effets positifs. Voilà, notamment à Montpellier.
Et vous m'avez dit en préparant cette émission, Aline Perraudin, que quand vous consacrez un article sur votre site à la fibromyalgie, eh bien, c'était parmi les pages les plus vues.
Oui, les articles sur la fibromyalgie sont très lus, certainement parce qu'en fait, les patients sont vraiment en attente de réponses, veulent connaître cette maladie encore mal comprise, et dès qu'il y a une information sur cette pathologie, s'il y a une étude, eh bien, ils sont vraiment, ils veulent vraiment chercher, parce que je crois qu'il y a encore, c'est une maladie encore très mystérieuse, mal comprise, et peut-être qu'il s'est encore mal soigné.
Bonjour Hélène.
Allô ?
Bonjour Hélène, vous appelez de Sevran, région parisienne.
Absolument.
Vous vouliez témoigner.
Oui, voilà, donc j'ai expliqué que suite à un surmenage professionnel et en même temps la vaccination contre le DT polio, j'ai développé cette maladie, ces énormes souffrances dans les muscles. Et en fin de compte, les médecins ont été très dubitatifs, n'ont absolument pas voulu reconnaître, même s'ils reconnaissaient une douleur, cette maladie pour eux n'existait pas. Que ce soit rhumatologue, kiné, etc. Il fallait absolument remplir des critères et personne ne voulant les faire, les tests, c'est difficile de correspondre à ça. Donc moi, je me suis soignée un petit peu toute seule. J'ai navigué entre le psychiatre et les antidépresseurs, ensuite l'acupuncture, la micro-kinésithérapie, l'ostéopathie, surtout l'homéopathie. C'est grâce à ça que maintenant je m'en sors. Et je suis passée par les cures également à Saujon qui soignent la dépression. Voilà, donc je n'ai pas écouté les médecins, je me suis soignée à droite à gauche et j'ai trouvé cette force intérieure parce que malgré le manque de sommeil, malgré la grosse fatigue, j'ai réussi à lutter contre tout ça.
Docteur Patrick Gignès, le témoignage d'Hélène rejoint énormément de mails que nous avons reçus sur la non-reconnaissance par le corps médical de cette pathologie.
C'est vrai, je crois que j'avais commencé à dire pourquoi la non-reconnaissance est mal vécue par les patients. Elle est aussi mal vécue en fait par les médecins qui ont été formés pour avoir un pouvoir médical, diagnostic et traitement à 80% efficace. Et devant des patients dont la plainte douloureuse est résistante à toutes les propositions, une partie des médecins, c'est pas par agressivité, mais presque par honnêteté, dit « je n'ai rien à proposer » et donc il dit « je préfère pas vous voir ». Alors cette façon de le dire est pas adaptée certainement, elle est pas
productive. Elle crée de la souffrance supplémentaire.
Une injustice supplémentaire qui est très très mal vécue. Mais encore une fois, je ne m'excuse pas, mais il faut quand même garder, même si votre médecin ne vous comprend pas tout à fait bien, il faut garder un médecin au moins généraliste pour qu'il y ait un diagnostic sur les autres composantes qui peuvent exister en complément vraiment de la fibromyalgie. La fibromyalgie pure, on la définit quand on a tout éliminé par ailleurs et quand on a compris les autres facteurs qui peuvent la pérenniser. Cette dame a parlé d'un vaccin et d'une fatigue au travail. Voilà deux paramètres qui peuvent être des catalyseurs d'une décompensation du système de contrôle de la douleur. Donc il faut traiter ce burn-out au travail. Et il faut peut-être traiter, comprendre qu'après une vaccination, il peut y avoir une phase de douleur de quelques semaines à quelques mois. Mais s'il n'y a pas d'autres facteurs, elle ne se transforme pas, cette douleur, en fibromyalgie sur des années.
Merci beaucoup, Hélène, d'avoir appelé.
Merci, je peux quand même dire que là, les douleurs ont persisté, enfin, ont pas quelques mois, plusieurs années quand même. Hein. Donc, je m'en sors que depuis très peu de temps. Et parce que j'ai cette force intérieure.
Alors, c'est important ce que vous dites, parce que ces maladies-là de réglage nécessitent que le patient prenne une grande partie de la responsabilité de choisir ses traitements, d'organiser lui-même une compréhension de la maladie et de faire un protocole en partenariat avec les professionnels de santé. Alors, peut-être les médecins, les kinés, et aussi, vous avez vu, l'homéopathe, l'acupuncteur ou des sophrologues. Tout ceci est important, mais le patient est un acteur maintenant beaucoup plus impliqué que dans des maladies où on peut faire un diagnostic et le traitement sans participer d'une éducation du patient.
Merci beaucoup, Hélène. Nous attendons vos questions au 01 45 24 7000 et à notre adresse grandbienvousfasse@radiofrance.com. Grand Bien Vous Fasse, une émission préparée par Alexia Rivière et Claire Destacan et réalisée par Jérôme Boulet.
À lire EBI sur France Inter.
The Cure, Boys Don't Cry.
Grand Bien Vous Fasse sur France Inter.
10h20 et on se demande ce matin de façon un peu provocatrice évidemment si la fibromyalgie est une maladie imaginaire avec le docteur Patrick Gignès, médecin anesthésiste au CHU de Montpellier et responsable du centre d'évaluation et de traitement de la douleur, avec Cécile Barou qui souffre de fibromyalgie et puis avec Aline Perraudin, directrice de Santé Magazine, notre complice ce matin. Écoutons le docteur Marcel Francis Kahn, ancien chef du service de rhumatologie de l'hôpital Bichat. Il était auditionné lors de la commission sur la fibromyalgie le 12 juillet dernier à l'Assemblée nationale.
Au milieu des années 70, je me suis aperçu qu'il n'y avait qu'en Europe continentale que ce problème des femmes qui avaient mal partout était tout à fait laissé à l'as, avec des diagnostics très fumeux, très variables, ou pas de diagnostic du tout. Et là, je me suis aperçu qu'en fait, nos collègues américains, anglais avait au contraire, depuis très longtemps, une connaissance très précise de ce type de pathologie. Et donc, on s'est aperçu qu'il y avait des centaines et même temps des milliers de publications scientifiques sur le sujet fibromyalgie, sur les différents aspects de cette pathologie.
Le docteur Marcel Francis Kahn, pionnier de la reconnaissance de la fibromyalgie en France, auditionné à l'Assemblée nationale en juillet dernier. Docteur Patrick Gignès, pourquoi une commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur la fibromyalgie ?
Je pense qu'elle a été d'abord stimulée et demandée par les patients eux-mêmes, qui voyaient que la prise en charge n'était pas adaptée, n'était pas sérieuse, et qu'il y avait trop de refoulement de ces patients dans leur demande. Oui. Donc je pense que ça a été un bon déclic pour que la Sécurité sociale et nos confrères s'en occupent.
Et puis en 2010, la Haute Autorité de Santé rend un rapport d'orientation sur la fibromyalgie. La fibromyalgie, docteur Gignès, c'est d'abord des douleurs chroniques qui ont des effets sur les capacités fonctionnelles des malades.
Oui. Le patient qui a ces douleurs finit par diminuer sa capacité de mouvement. Et il se désadapte à l'effort, même à l'effort modéré. Cécile nous disait qu'elle avait l'impression le matin d'avoir un rouleau compresseur qui est passé sur elle.
Oui,
et donc, il y aurait spontanément une diminution de capacité motrice, une diminution de l'effort de base. Et quand on ne fait plus de mouvement, finalement, ce vide du mouvement est remplacé par la douleur. Donc là, c'est très important, peut-être la plus importante des messages pour le début de la prise en charge, c'est malgré les douleurs, il y a une petite fenêtre de tir pour pouvoir quand même très progressivement retrouver un peu la marche, 3 minutes matin et soir. Et ainsi, cet esclave de cette maladie qui est fatigue et qui rend des douleurs de tout le corps.
J'ai un auditeur par mail qui nous dit qu'il a l'impression d'avoir été passé à tabac après une nuit d'insomnie. Cécile Barroux, vous avez 49 ans et vous souffrez de fibromyalgie. À quel âge et comment la pathologie dont vous souffrez a été détectée ?
Alors, à quel âge ? J'ai été diagnostiquée à 37 ans, mais ça faisait déjà un petit moment que même pendant ma plus tendre enfance.
Vers l'âge de 12-13 ans
Non.
Même avant?
Non, même avant. Même petite, au moment de la marche, où je n'arrivais pas à revenir de l'école en marchant. C'était ma mère qui me portait. Et puis, avec l'âge, des douleurs sont arrivées, plus ou moins longues, plus ou moins résistantes. Et puis un jour, par rapport à un choc aussi familial, j'ai développé une cervicalgie et qui n'est jamais partie. Et tout s'est enchaîné, tout s'est diffusé dans tout le corps. Et donc là, ça a été la tournée des médecins, dont le professeur Kahn.
Et la Haute Autorité de Santé parle à propos de la fibromyalgie d'une douleur diffuse qui peut débuter au cou et aux épaules pour s'étendre par la suite au reste du corps. Et certains malades parlent même de douleurs qui partent de la racine des cheveux aux orteils.
Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça.
Docteur Patrick Gignès.
Oui, pour comprendre ce phénomène de généralisation d'un corps torturé et douloureux, il faut savoir que cette maladie est due au phénomène que on a tous un système automatique antidouleur qui part de la base du crâne et qui normalement met une chape de plomb sur toutes les petites douleurs, depuis l'enfance, de croissance musculaire, petite inflammation. Ce système antidouleur est un peu parasité par cette maladie qui le rend moins efficace. Et donc, les douleurs de base qui ne seraient pas douloureuses, de début d'arthrose, de tendinite, de muscles froissés, sont chez le fibromyalgique pas contrôlées du tout et 2 à 3 fois plus douloureuses. Et ça, c'est un phénomène majeur de contrôle de la douleur insuffisant. Le deuxième phénomène, si je peux me permettre, c'est que tous les capteurs périphériques, on a des capteurs, des alarmes dans les tissus nerveux, dans les muscles, dans la peau, dans les cheveux, on a des capteurs et ces capteurs deviennent écorchés vifs eux aussi. Mmh. Comme si on passait à côté d'une rangée de voitures, sans voler la voiture, l'alarme se déclenche. Mmh. Ça veut dire que l'alarme est réglée trop trop sensible.
Cécile Barroux.
Oui,
ça vous parle, évidemment.
Ah oui, complètement. C'est tout à fait ça. C'est le moindre, ça peut être le moindre frôlement, peut devenir quelque chose de très gênant, très qui fait souffrir, qui fait réagir, en fait.
On a même les tests objectifs de sensibilité des capteurs à la douleur sont très abaissés. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de perception de la douleur qui est extrême chez le fibromyalgique et qui s'aggrave avec le temps. C'est pour ça qu'il faut le casser et le contrecarrer, d'abord en faisant des choses adaptées pour les traitements, je ne sais pas si on y reviendra, et pas des mauvaises choses, et surtout les phénomènes de prise en charge corporelle. Alors le mouvement, les massages, l'hydrothérapie, ce qui est intéressant dans les cures thermales.
Cécile Barroux, les médecins comprenaient votre maladie, la plupart des médecins que vous avez rencontrés ?
Oui, j'ai eu cette chance, c'est d'être très bien suivie par mon médecin traitant, qui m'avait fait faire des séances de kinéthérapie. La kiné était très très au fait de cette maladie. C'est elle un peu qui m'a aiguillée aussi pour que je puisse me renseigner, aller voir d'autres personnes, dont un rhumatologue, ensuite le professeur Kahn. Et je me suis sentie bien aidée au début. Enfin, ils étaient très présents, on va dire.
Docteur Patrick Gignès, la fibromyalgie, c'est une pathologie qui toucherait 1 à 2%, les chiffres ne sont pas précis, de la population adulte en France, essentiellement des femmes entre 30 et 60 ans. Et l'âge moyen de l'apparition de la maladie se situerait aux alentours de 40 à 45 ans.
Voilà, c'est la femme déjà active, qui a été d'ailleurs très active avant le début de la maladie. Tous les fibromyalgiques ont été des patients qu'on peut appeler speed, qui avaient très tôt une maturité précoce, dès leur enfance, qui avaient une volonté de bien faire, de pas être aidé, et de faire peut-être agir sur leurs muscles trop de tension. Et peut-être le sommeil avec insuffisamment de relaxation la nuit. Et donc c'est cela qu'on construit progressivement à cause de peut-être de la pression de la société aussi. Et que les femmes, il y a une pression importante, il faut être femme, travailleuse, épouse, les enfants, on a moins ça chez les hommes. Donc on a là un épuisement progressif des capacités de récupération et le sommeil est perturbé et le cercle vicieux est enclenché.
Et on parle d'une grande émotivité chez la plupart des malades de fibromyalgie.
Vous avez raison, c'est pour ça qu'il faut écouter avec une grande compassion, mais tout en donnant des conseils quand même. L'émotivité vient du fait que vivre une torture jour et nuit, sans possibilité de récupération, c'est incompréhensible par celui qui ne traverse pas ces époques-là.
Cécile Barou.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. On se sent seul face à cette douleur, même si on a été diagnostiqué et comprise. On a des grands moments de solitude. On se dit que personne ne peut comprendre puisque il faut vraiment le vivre pour savoir ce que c'est. On peut pas s'imaginer de telles douleurs et d'une telle importance. Tant qu'on n'a pas vécu ça.
L'entourage peut craquer aussi.
Et l'entourage peut craquer, ça m'est arrivé.
Bonjour Chantal.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de l'Indre, où exactement ?
À Villan-Trois.
Bon, vous vouliez témoigner ?
Eh bien oui, je voulais témoigner un petit peu aussi de mon parcours, parce que donc aujourd'hui j'ai 63 ans. J'ai commencé à avoir des douleurs à l'âge de 28-29 ans. Donc c'est là où j'ai commencé à consulter. Donc ça, voilà, ça fait très longtemps que j'ai cette maladie. Au départ, on m'a mis un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde, donc ce qui fait que j'ai eu tout un tas de traitements pour la polyarthrite qui n'étaient pas vraiment efficaces. Et puis, il y a environ 5-6 ans, donc j'ai été hospitalisée au centre hospitalier de Limoges. On m'a refait tout un tas d'examens, donc on a retiré la polyarthrite, on a retiré le lupus, on a retiré la spondylarthrite, enfin c'était pas toutes ces choses-là, et on m'a dit... Après avoir des points de palpation au niveau du dos, on m'a dit c'est une fibromyalgie. Ouais, c'est quoi fibromyalgie? Vous verrez avec votre médecin traitant. Donc on nous donne quelques petites pistes comme ça, en nous faisant comprendre que de toute façon il n'y a rien à faire, mais on repart avec une interrogation énorme. Donc ensuite il faut accepter cette maladie, parce que ça c'est aussi un très long parcours. Moi je ne voulais pas arrêter ce que je faisais, je ne voulais pas baisser les bras devant cette maladie que je ne connaissais pas. Et puis, il faut bien baisser les bras quand même, parce que les bras nous manquent à un moment, les forces nous manquent, on a mal vraiment des pieds à la tête, on a l'impression que notre corps est pris dans un étau, dans un carcan, on est étouffé, on n'a plus de force, on ne dort plus, tout ce qui a été dit.
Merci. Merci Chantal pour ce témoignage, docteur Gignès.
Oui, je retiens une chose importante, c'est que vous êtes allé dans un centre hospitalier et on a fait un diagnostic global. Alors, il ne faut pas le vivre comme négatif. C'est utile de faire le diagnostic des autres pathologies qui pourraient relever d'un traitement simple. Alors, la fibromyalgie seule, elle existe très peu. Il y a toujours des cofacteurs, une copathologie associée. Et là, vous avez cité, par exemple, la polyarthrite. Donc, on a des critères, mettons, sur 20 points, vous aviez, à l'époque où on faisait diagnostiquer la polyarthrite, 12 sur 20. Et à ce moment-là, on met des traitements lourds de la polyarthrite qui marchent. Mais d'un seul coup, vous pouvez avoir, avec nouvelle exploration, 8 sur 20 des critères, c'est pour parler simplement. À ce moment, vous n'avez plus la polyarthrite au point de vue du rhumatologue. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas un facteur inflammatoire à minima. Léger. Donc c'est pareil pour les notions de la thyroïde. Beaucoup de patients ont aussi une hypothyroïdie. Aussi les syndromes secs, c'est-à-dire des petites anomalies sur les sécrétions des glandes salivaires ou lacrymales. Ils ont parfois des problèmes d'arthrose. des parfois des problèmes de surpoids ou d'insuffisance de respiration la nuit, l'apnée du sommeil. Donc il faut faire le diagnostic des autres petites pathologies connexes à la fibromyalgie.
Merci beaucoup Chantal de nous avoir appelé depuis l'Indre. Et il est déjà temps de retrouver la petite philo de la vie quotidienne de Thibaut de Saint-Maurice.
La petite philo de la vie quotidienne.
La vérité n'est jamais amusante à dire, sans ça tout le monde la dirait.
Thibaut de Saint-Maurice.
Et vous avez l'intention de me la dire?
Oui.
Thibaut de Saint-Maurice, vous êtes donc notre prof de philo et comme tous les lundis, vous soumettez à notre sagacité un geste de la vie quotidienne. Ce matin, ce besoin presque vital pour certains de prendre une tasse de café pour se réveiller.
Ce matin, je suis carrément en retard parce que je me suis endormi après le réveil. Ce matin, là, je suis assez fatigué puis il fait plutôt froid. Ce soir, là, faut vraiment que je me couche tôt parce que j'ai du mal à rassembler mes idées.
Alors Ali, je ne sais pas si comme Pierrick Sorin, l'artiste vidéaste dont on a entendu ici un extrait de son autofilm Les Réveils, qui est une œuvre de 1988. Alors je ne sais pas si vous avez du mal à vous réveiller le matin.
Non, ça va, merci.
Ça va plutôt. Bon, mais c'est vrai, le réveil est en lui-même une épreuve quotidienne du quotidien. Parce que c'est d'abord par le réveil que le quotidien devient quotidien. Voilà, au petit matin, quand le réveil sonne, et surtout le lundi, quand la semaine recommence, on ne découvre pas un monde nouveau. On retrouve le monde que l'on a laissé quelques heures auparavant. La difficulté du réveil, c'est pas tellement de se tirer du lit, mais c'est d'accepter d'en sortir pour retrouver finalement un monde que l'on connaît déjà.
Thibaut, c'est quand nous nous endormons dans des lieux inhabituels que le réveil du matin sonne comme un appel à partir à l'aventure et à la découverte.
Oui, c'est pendant les vacances par exemple, et encore, il faut que ça soit exotique, mais ça ne marche que les premiers jours. Mais une fois qu'on est sorti du lit, pourquoi est-ce qu'on ressent tellement le besoin de boire un café pour nous réveiller vraiment ? Comme si, tant qu'on n'avait pas pris son café ou son thé pour vous, Ali, ou pour certains même peut-être un petit calva, voilà, comme si on n'était pas vraiment réveillé. Alors que l'on est effectivement sorti du lit. Voilà pourquoi croyons-nous que nous avons besoin de quelque chose de plus pour être tout à fait réveillé. Eh bien, pour le comprendre, je vous propose de revenir au temps où le café arrive en Europe, au XVIIe siècle, à l'époque donc de philosophes comme Spinoza ou quelques années plus tard comme Leibniz. Alors je ne sais pas si ces deux philosophes étaient des buveurs de café, mais ils ont tous deux élaboré une philosophie du parallélisme entre l'âme et le corps, ça risque d'intéresser les médecins autour de la table. Le parallélisme de l'âme et du corps, c'est la conception selon laquelle l'homme est un être composé de deux dimensions distinctes, le corps d'une part et l'âme d'autre part. Et ces deux dimensions sont distinctes, mais suivent des chemins parallèles. Ce qui arrive donc au corps doit trouver une correspondance parallèle dans l'esprit et puis réciproquement.
Alors, en quoi cela explique-t-il que nous ayons besoin de café pour nous réveiller le matin ?
C'est très simple, croire que nous avons besoin de café pour nous réveiller complètement, c'est adopter une conception du parallélisme entre le corps et l'âme. Parce que si nous croyons avoir besoin de café pour nous réveiller tout à fait, c'est que nous croyons aussi que sans café, nous ne serions pas tout à fait réveillés. Le réveil qui sonne nous tire du lit et réveille notre corps. Le café ou le thé, eux, réveillent notre esprit. Pour le dire autrement, il ne suffit pas d'être sorti du lit pour être bien réveillé. Encore faut-il avoir les idées claires, encore faut-il que notre esprit soit réveillé.
Donc si je vous comprends bien Thibaut, tous les matins en nous réveillant et en buvant notre café, nous rejouons le grand problème philosophique classique de l'union de l'âme et du corps, rien que ça.
Voilà, rien que ça, c'est une expérience quotidienne de métaphysique et en même temps ça donne du sens à ce réveil que nous répétons tous les matins et à travers lequel nous recommençons de vivre donc tous les matins. Ça signifie qu'une vie d'homme, c'est pas qu'une suite de mouvements corporels. Nous ne sommes pas de simples machines organiques, une vie humaine c'est aussi une vie consciente, une vie éveillée, une vie de pensée. Et Sartre, ou Balzac, grands buveurs de café tous deux, l'avaient bien compris. On boit aussi du café plus tard dans la journée et jusqu'au cœur de la nuit pour maintenir l'esprit en éveil et pour lutter contre la fatigue du corps. Voilà, pour pouvoir continuer de penser, d'écrire, de travailler, de parler, bref, pour pouvoir rester éveillé quand le mouvement naturel du corps, lui, nous pousserait au contraire à nous endormir. Alors voilà, il est 10h30, petite pensée pour tous ceux qui prennent un café. On ne boit donc pas du café juste pour se désaltérer, tout comme on ne fait pas de philosophie pour avoir plus de connaissances, mais on boit du café comme on fait de la philosophie pour avoir ou pour garder l'esprit éveillé.
Merci Thibaut de Saint-Maurice. On vous retrouve jeudi pour une petite philo des marques et de la pub. Vous évoquerez une petite entreprise suédoise au logo bleu et jaune qui connaît un certain succès dans le domaine de la déco et de l'ameublement. Nous attendons vos questions sur la fibromyalgie, longtemps considérée comme une maladie imaginaire. 01 45 24 7000. Grand bien vous fasse @radiofrance.com et sur le hashtag Grand bien vous fasse.
Assis devant rien, je réfléchis, j'invoque l'esprit, celui qui depuis lors me possède. Désormais fantôme, il ne m'écoute plus, je le comprends, je m'écoute trop et ça ne mène jamais ailleurs. Trois heures à M seul avec moi dans un diner ouvert 24 heures où les gens prennent pour emporter. La soupe est chaude, les toilettes propres, la dame est gentille et quand elle parle défile les sous-titres comme au cinéma. C'est un film noir, oui je pensais, j'espère au moins que quelqu'un regarde et connaît la fin. J'ai des questions, des myriades de questions, une de plus à chaque seconde. C'est un film noir, oui j'en suis sûr, j'espère au moins que quelqu'un regarde et connaît la fin. J'ai des questions, des myriades de questions, une de plus à chaque seconde. C'est un film noir, c'est un film noir, c'est un film, c'est un film noir, c'est un film noir, noir et blanc. J'écris mes aveux dans le bloc-notes de mon téléphone, soudain quelqu'un entre, j'ai cru c'était toi, c'était personne. C'est un film noir. J'espère au moins que quelqu'un regarde et connaît la fin. J'ai des questions, des milliards de questions, une de plus à chaque seconde. C'est un film noir, oui j'en suis sûr. J'espère au moins que quelqu'un regarde et connaît la fin. J'ai des questions, des milliards de questions, une de plus à chaque seconde. C'est un film noir.
Peter, Peter, Noir Eden.
Ali Rebbi, grand bien vous fasse. Sur France Inter.
10h39 et on se demande ce matin si la fibromyalgie est une maladie imaginaire. Évidemment non, c'est une pathologie mal connue et qui fut longtemps non reconnue. Avec nous le docteur Patrick Gignès, médecin anesthésiste, spécialiste de la douleur au CHU de Montpellier, Cécile Barou qui souffre de fibromyalgie et Aline Perraudin, directrice du mensuel Santé Magazine, notre complice ce matin.
Je vois rien.
Moi non plus. Rien d'anormal a priori qui l'a amené ici, ce patient.
Les pompiers du 15e.
Mais je vois rien.
Si, regardez, il y a une tache là, regardez.
Zadache.
Là, en bas du poumon gauche, une grosse tache, très préoccupante.
Ça, c'est pas une tache, ça. C'est la partie basse du diaphragme.
Bon, enfin, achetez-vous des lunettes, merde.
Ah, s'il vous plaît, sur un autre ton. Vous êtes le docteur qui, d'abord?
Ah, non, non, moi je suis pas docteur. Merde, c'est un patient.
Ben oui, évidemment, c'est un patient. Qu'est-ce qu'il fout là?
Mais c'est moi sur les photos, là-haut.
C'est un grand malade.
Mais justement, c'est pour ça que je suis là, parce que je suis très malade.
Un extrait d'Hyperchondriaque de Danny Boone. Alors, docteur Gignès, le fibromyalgique a longtemps été considéré comme un hypochondriaque.
Oui, c'était des maladies, alors hystérie aussi.
Psychosomatique.
Psychosomatique. Bien que le psychosomatique n'est pas très très mauvais comme terme.
Tout à fait,
psycho,
tout à fait.
C'est tout ce qui peut être déréglé dans le comportement de la vie.
Et dans le langage courant.
Voilà, hein, c'est vrai. Voilà. Et le somatique, tout ce qui est justement un mauvais réglage, conséquence sur le corps.
Cécile Barou, on vous a prise pendant longtemps pour une hypochondriaque?
Non, pas du tout.
Ah, quelle chance vous avez.
Oui, tout à fait. Oui, parce que je.
On vous a pris au sérieux.
Oui. J'ai eu cette chance, mais je lis beaucoup de témoignages de personnes qui sont prises pour des hypochondriaques et moralement, c'est quelque chose de très difficile à vivre.
Josiane qui nous dit par mail, j'ai 67 ans, fibromyalgique depuis 10 ans et je veux insister sur, comme le dit mon médecin, la double peine qu'est cette maladie. En effet, personne ne vous croit puisque vos douleurs et votre fatigue ne se voient pas. Combien de fois ai-je entendu « c'est dans la tête voilà. », voire un cinglant « je ne te crois pas ».
Ça, c'est la constance de l'injustice. Cette maladie est liée à l'injustice. Ça, c'est très philosophique. L'injustice socialement, l'injustice dans la famille, l'injustice du corps médical qui, au début, la croit pas, et l'injustice de l'insuffisance non thérapeutique. Par contre, il faut quand même penser que la maladie est une maladie chronique. Et là, personne aussi en France et dans la médecine veut voir la maladie chronique, celle qui dure et qui ne répond
qui
pas.
Qui s'enracine.
Voilà, qui s'enracine. Ouais. Et il y a 18% de la population en France qui est atteinte de maladies chroniques. Et personne ne peut les prendre en charge puisque c'est pas une discipline. Et c'est un comportement dans lequel le patient doit aussi se remettre en question avec l'aide de thérapeutes. Là, le philosophe, monsieur Thibault, avait parlé du réveil de l'esprit par le café. Et je veux dire que pour les fibromyalgiques, il faut aussi réveiller le corps par un petit déjeuner adapté. Ce lundi matin de rentrée, un café seul ne réveille pas le corps. Et le muscle du fibromyalgique est tendu, actif depuis 20 ans, ne trouve pas l'énergie pour continuer à fonctionner convenablement. Donc le petit déjeuner parisien que je viens de faire ce matin est très mauvais. En fin de matinée, je ne vais pas trouver mes mots. La fatigue va peut-être venir, je ne vais pas être fibromyalgique, mais presque pas loin. Donc il faut un petit déjeuner consistant avec quelque chose qui dure de la matinée et pas le croissant avec tartine de confiture. 10 minutes après, c'est l'hypoglycémie relative et la fatigue du corps. Et ça peut enclencher, quand on est favorisé par ces mauvais réglages du corps, un état de fatigue important.
Alors à propos des liens entre fibromyalgie et alimentation, Françoise, bonjour Françoise.
Bonjour.
Vous vouliez témoigner, je ne sais même pas d'où vous appelez. Sur mon écran, il n'y a pas d'indication géographique. Vous appelez d'où ?
De Lyon.
Bon, alors vous vouliez témoigner sur les liens entre fibromyalgie et alimentation.
L'alimentation, parce que je n'ai plus mal. Je tiens à commencer par là, je n'ai plus mal. J'étais fibromyalgique plusieurs
Françoise,
années.
On va vous reprendre dans quelques secondes. La liaison n'est pas très bonne. Françoise voulait parler de l'alimentation, des intolérances alimentaires. Elle nous explique qu'elle est au régime depuis 2015 et que cela fait des miracles et qu'elle n'a plus mal. Docteur Gignès.
Alors voilà, les miracles en fibro, il n'y en a pas trop, mais c'est un facteur qui peut être intéressant pour améliorer la situation. Actuellement, les pains que nous mangeons, les farines, ce ne sont pas les mêmes qu'il y a 2-3 décennies. Elles ont peut-être un meilleur aspect pour au pain qui gonfle mieux, mais sont plus courtes. Et on pense qu'il y a une partie de cette alimentation de farine modifiée qui a du mal à être digérée par notre tube digestif. Et donc, pour les fibromyalgiques, le fait d'alléger le gluten peut diminuer le facteur inflammatoire à minima du tube digestif. Et ainsi diminuer l'inflammation générale et diminuer peut-être le perçu de la douleur du corps. Mais ne soyons pas intégristes, pour pas parler comme ça, de dire j'exclus tout le gluten, c'est très cher à vivre, le régime sans gluten, et c'est pas toujours aussi productif que pour cette patiente qui a témoigné.
Cécile Barrou, est-ce que vous avez modifié votre alimentation ?
Du tout. J'ai essayé, effectivement, pendant un moment, de vraiment baisser le gluten, et j'ai vu aucune amélioration. Pardon.
C'est bien sûr au cas par cas.
Donc, j'ai continué. En essayant quand même de manger correctement.
Aline Perraudin, directrice de Santé Magazine.
Il y a eu une étude récemment, c'est-à-dire en juillet, où je crois qu'il est paru, qui a quand même montré que chez certains patients, un régime sans gluten pouvait améliorer les douleurs, et notamment les gens qui souffraient aussi de troubles gastro-intestinaux. Voilà. Donc c'est peut-être, comme le disait le professeur Gignès, intéressant.
Françoise, vous êtes à nouveau en ligne. J'espère qu'on vous entend mieux.
Oui, j'espère.
Ah ben oui, c'est parfait.
Bon. Donc voilà, je disais que j'avais donc fait des cures aussi, moi, à Luchon, avec arthrose et option fibromyalgique. Je suis allée en centre antidouleur également. Et puis, en cure, on parlait donc de supprimer la lactose. J'ai commencé à supprimer tout ce qui est lait de vache, parce que je buvais beaucoup, beaucoup de lait de vache. J'ai eu une amélioration. Donc, j'ai voulu aller plus loin. J'ai fait une prise de sang pour les recherches d'intolérance alimentaire. Et depuis un an et demi bientôt, là, j'ai supprimé pendant un temps plus ou moins important tout ce qui était intolérant pour moi. Donc, entre autres, la lactose et la caséine, où j'avais des taux d'intolérance énormes. Et maintenant, j'ai complètement supprimé. Hein. Le gluten, j'ai supprimé la farine de blé. Je suis bien, voilà, je dors bien, je n'ai plus mal, je ne suis plus raide la nuit. Je retrouve une énergie que j'avais perdue depuis très très longtemps. Je pense que l'intolérance alimentaire est très importante.
Docteur Gignès.
C'est un effet intéressant parce que chaque patient doit trouver lui-même sa formule. Oui. C'est pas son ordonnance qu'il doit partager avec son médecin, mais la formule qui, vis-à-vis de son mode de vie et de sa corporalité, c'est-à-dire ses gènes, son habitude culturelle depuis des décennies, il doit trouver les moyens d'améliorer ce qui peut-être a été délétère. Trop de lait en trop grande quantité, c'est fait pour les enfants de la vache, les petits de la vache. C'est pas fait pour les petits de l'homme, parfois. Donc il faut modérer les phénomènes et on s'aperçoit que le test d'alléger certaines substances comme ça peut provoquer moins d'inflammation et moins de douleur. Mais ce n'est pas généralisable.
Cécile Barrou, je rappelle que vous souffrez de fibromyalgie. Quelle a été la bonne formule pour vous soigner ?
Il n'y en a pas vraiment. Savoir s'écouter un petit peu, savoir se reposer quand ça ne va pas, savoir accepter la maladie et vivre avec. une fois qu'on a assimilé cette acceptation, on peut faire déjà beaucoup plus de choses. Même si on souffre, on est quand même à même de faire les choses et de se prendre en main aussi, acteur effectivement de notre vie et de pouvoir évoluer malgré tout vers un mieux-être et rester avec le sourire et pas déprimé.
Docteur Géniès.
Ceci est important par rapport à l'acceptation. C'est pas renoncer, mais c'est surtout passer du stade de la colère et de la torture à quelque chose de plus positif dans lequel on peut échanger avec les professionnels.
Oui,
quand on est en phase de colère, vraiment rien ne passe dans nos conseils aux patients. Nos infirmières arrivent à pas aider les patients. Mais les associations de patients sont passées à ce stade-là, un stade différent. Beaucoup plus de soutien aussi au groupe dans lequel participent ces patients. Le groupe de patients entre eux sont plus comprises par eux-mêmes. Il vaut mieux être compris par des patients qui ont passé par la maladie plutôt parfois des gens qui n'ont jamais cette expérience de mal-être général. Donc ça, c'est une phase importante de la colère à une certaine acceptation positive.
Docteur Géniès, la fatigue chronique fait partie du diagnostic de la fibromyalgie. Et est-ce que le repos suffit à apaiser cette fatigue chronique ?
Et non, justement, voilà. Le repos ou l'absence de mouvement chez le fibromyalgique ou chez le fatigué chronique, qui est une autre entité qu'il faut aussi mieux diagnostiquer sur le plan de la médecine interne. La médecine générale, il faut suivre, parce qu'il y a des fois beaucoup d'hypothyroïdie, de troubles endocriniens, de troubles diabétiques naissants ou de maladies dit à minima qu'il faut rechercher. Donc c'est quand même un diagnostic là compliqué de spécialiste et qui parfois nécessite une hospitalisation. Mais sinon, cette maladie, la fibromyalgie est associée de fatigue chronique, de céphalée chronique, d'arnoldalgie, de troubles de l'articulation mandibulaire.
D'arnoldalgie ?
Arnold, c'est quand le cou fait mal, qu'on se traite par le massage permanent de la nuque qui est tendue, peut-être à cause du petit chef qu'on a au-dessus de nous, mais aussi les colites chroniques, les pathologies... des fois de l'arthrose, des tendinites récidivantes. Tout ça peut être, faire attention, peut être le début d'une fibromyalgie. Parce qu'on opère parfois des canals carpiens ou des arthroses de hanches ou de genoux. Et une facteur de non-efficacité de la prothèse de genou ou de la prothèse de hanche, c'est que derrière, il y avait un processus fibromyalgique qui expliquait la pérennité de la douleur malgré le changement du cardan, j'allais dire.
Et puis certains malades souffrent d'insomnie, de nuits très courtes, hachées. C'était votre cas, Cécile Barou?
Oui, tout à fait. Ou de nuits carrément blanches. Il faut savoir l'accepter. Il n'y a pas très longtemps que je l'ai accepté, de me dire que si je dormais pas la nuit, tant pis, je dormirai un autre moment, mais parce que j'ai cette chance, enfin entre guillemets, de pouvoir me reposer à un moment de la journée qu'on n'imagine pas, quoi. Si c'est à 6h du soir, tant pis, je dors pendant une heure et je me repose.
Et surtout pas de somnifères, surtout pas se noyer de somnifères qui fait du sommeil artificiel et qui perturbe encore plus les systèmes cérébraux centraux, entraînant un défaut encore pire de contrôle de la douleur. Donc pas de relaxant musculaire pour décontracter ses muscles, pas de somnifères trop grande quantité ou trop prolongés, c'est très mauvais.
Aline Perraudin, dans Santé Magazine, vous signalez que des études récentes, ces études montrent que la musicothérapie peut soulager ceux qui souffrent de fibromyalgie grâce à des essais cliniques.
Oui, c'est l'usage de la musique, mais dans un cadre médical, encadré avec des psychologues,
pendant 20 minutes par jour,
et avec un rythme très particulier, à la fois stimulant, relaxant, stimulant. C'est des séances de 20 minutes quotidiennes, et un protocole qui a été établi au CHU de Montpellier, notamment MusiCare. Et on a, c'est des essais cliniques ont montré une amélioration de la douleur. Dès les premières séances, donc c'est en fait un effet relaxant. Peut-être que ça ne marche pas chez tous les patients, mais en tout cas c'est une des techniques, une peut-être parmi les formules, c'est une technique de relaxation qui peut profiter à des patients. Docteur... Et qui est encore pas assez connu, je crois. Enfin,
c'est vrai, qui est pas entièrement remboursé, bien sûr, non plus, ça c'est notre problème. Mais de fait, pour l'action extérieure de la médecine sur les systèmes de contrôle automatique, que sont les systèmes nerveux profonds à la base du crâne, on n'a pas de rhéostat, on n'a pas de bouton pour réactiver ce système de contrôle de la douleur qui vient de la base du crâne. Et les moyens indirects, comme la musicothérapie, ont cette capacité d'un système nerveux sympathique, enfin on appelle celui-là celui qui est profond, et qui règle les vaisseaux dans les muscles, qui règle les vaisseaux dans les tendons, il n'est pas sensible à des médicaments, on n'en a pas. Par contre, des techniques comme ceci, alors chez les Asiatiques, on a plus la notion de yoga, de Qigong, et en France, la musicothérapie, là, ce système de musique particulière, avec une fréquence qui diminue, permet de réguler le cerveau et le corps, donc, à un niveau plus basal de fonctionnement, moins excité, moins tendu, moins crispé.
Bonjour Alain.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de l'île d'Oléron ?
Oui.
Alors vous êtes touché par la fibromyalgie. C'est une maladie qui touche aussi les hommes. Hein. On a parlé beaucoup de femmes et d'une pathologie qui touche essentiellement les femmes, mais vous êtes touché.
Oui, mais en fait je suis guéri.
Ah, alors expliquez-nous.
Voilà, donc ça m'a touché il y a quelques années, j'avais 47 ans, les symptômes ont été décrits, fatigue énorme, douleurs musculaires, enfin je me pensais handicapé, diminué à vie, et par bouche à oreille, une amie m'a conseillé un médecin allergologue. Alors ça a commencé par des analyses de sang qui ont été expédiées en Allemagne pour rechercher les métaux lourds. Et parce qu'il semblerait qu'en France, les intoxications aux métaux lourds ne soient pas reconnues. Enfin, le médecin nous le dira mieux. Et ben, on a trouvé des grandes quantités de plomb, de cuivre et un troisième métal que j'ai oublié. Et à partir de là, un traitement régulier à base d'injection d'un produit chélateur, c'est-à-dire un produit qui va dans le sang éliminer tout ce qui est inutile, nocif, et y compris aussi ce qui est utile, donc il faut compenser par des compléments alimentaires. Et en quelques séances, eh ben, j'ai retrouvé mon énergie.
Docteur Patrick Gignès.
Oui, c'est intéressant, mais les études scientifiques ne nous cachent rien et on n'a pas pu retrouver la cause par l'intoxication des métaux. On n'a pas pu le retrouver, ça. Alors, pour vous, peut-être, ça a eu un facteur important déclenchant et ça a eu surtout une notion que ça a correspondu peut-être à votre façon de concevoir le corps, tel que vous l'aviez peut-être délaissé par une alimentation inadaptée et des phénomènes de métaux qui s'accumulent. Mais ça n'a pas été retrouvé dans les études scientifiques, cette causalité directe ou importante des métaux lourds. Il faut se méfier. Comme la médecine a un échec dans la prise en charge, on peut avoir beaucoup de discours pour les patients, de dire « moi j'ai le test qui va permettre de prouver, moi j'ai la thérapeutique ». 80% des sites internet sur la fibromyalgie, c'est pour vendre quelque chose aux fibromyalgiques. Donc il faut faire attention à toutes les explorations qui peuvent, en dehors de la médecine classique, je ne suis pas contre, mais qui peuvent coûter cher et parfois orienter. Bon, pour vous ça a marché, mais on ne peut pas le généraliser.
Merci beaucoup Alain d'avoir témoigné. Patrick Gignès, j'imagine que cette maladie attire, vous le disiez, des charlatans à la façon du malade imaginaire de Molière.
Mais je crois que c'est vrai. C'est vrai que c'est peut-être pas la médecine qui est dans la position du malade imaginaire de Molière, ouais, mais
c'est l'inverse.
C'est peut-être l'inverse. Ce sont les thérapeutes qui disent « moi j'ai le secret ». Alors c'est facile à dire puisque la médecine n'a pour l'instant pas un succès plus de 30-37% sur la fibromyalgie, sans qu'il y ait l'accompagnement du patient et la durée de la prise en charge qui va permettre une amélioration de la situation. Mais on peut pas dire dans quelques semaines « je vais guérir la fibromyalgie ».
Donc il faut marteler ce matin, docteur Patrick Gignès, que la fibromyalgie n'est pas une maladie imaginaire et que ceux qui en souffrent ne sont pas des hypochondriaques.
Absolument, absolument. Mais par contre, malgré que ce soit très intense, par exemple, les médicaments comme la morphine marchent très peu. Et là, on a sur nos 6 patients hospitalisés, on a toujours 2 patients à qui on fait des sevrages de morphine qui ont été donnés de façon intensive, trop longtemps et de façon abusive. Et ils sont devenus presque plus écorchés vifs qu'avant la morphine.
Et pourquoi prescrit-on beaucoup d'antidépresseurs aux fibromyalgiques?
Alors voilà, dans les thérapeutiques, les antalgiques marchent très peu, les tramadol un petit peu, avec quelques effets secondaires. Par contre, il y a une classe de médicaments qui a un effet sur le renforcement du contrôle inhibiteur de la douleur, de contrôle cérébral de la douleur, ce sont les antidépresseurs.
Et pourquoi?
Parce qu'ils agissent sur les neuromédiateurs, adrénaline, sérotonine, que vous avez déjà entendu parler dans la dépression. Mais ils n'ont pas l'efficacité qu'on a parfois dans la dépression. Donc c'est des compléments à essayer sur 3 à 6 mois, à un contrôle du médecin, à dose des fois modérée. Mais s'ils ne fonctionnent pas, on les arrête. Mais on peut faire le test.
Cécile Barou.
Oui, c'est exactement comme ça que je suis traitée. Donc effectivement, le tramadol aussi m'aide quand même. Je sais quand je l'oublie. Et les antidépresseurs, mais c'est pas depuis 3 à 6 mois, c'est depuis plus de 10 ans. Quoi.
Dernière question, docteur Patrick Gignès. Alain nous disait qu'il était guéri de la fibromyalgie. Guérit-on vraiment de la fibromyalgie?
Oui, il faut avoir un discours positif, ouais. Parce qu'on ne meurt pas de la fibro et on ne devient pas paralysé. Donc, elle va vieillir avec nous plus vite que nous, peut-être, souvent. Et je pense qu'on s'adapte, on stratégie. Et les fibromyalgiques, quand on les voit vieillir, ils nous disent, si on pose la question, oui, j'ai aussi mal qu'avant. Mais leur comportement de vie, l'adaptation à la vie professionnelle parfois, la vie familiale, chez les autres, ils voient une amélioration progressive et lente.
Et nous consacrerons dans Grand Bien Vous Fasse d'autres émissions au traitement de la fibromyalgie.
Ali Rebi, Grand Bien Vous Fasse, sur France Inter.
Bonjour Aline Perraudin, rebonjour.
Bonjour.
Alors tous les lundis, avec la complicité de votre mensuel Santé Magazine, on vous retrouve pour évoquer une étude scientifique récente ayant un impact sur notre santé. Cette semaine, l'exercice physique, également bon pour le cerveau.
Oui, en fait, je voulais vraiment en parler parce qu'au moment où on parle notamment de taxer la malbouffe, on parle beaucoup d'alimentation et je trouve qu'on sous-estime les bienfaits de l'exercice physique. Pour beaucoup de Français, manger mieux, c'est encore plus important que bouger plus. Peut-être parce que effectivement, on communique plus sur la nutrition. Et pourtant, les deux sont essentiels. Il y a eu notamment une étude récente parue en août des chercheurs américains australiens qui ont analysé les résultats de 174 études publiées entre 1980 et 2016.
C'est ce qu'on appelle une méta-analyse.
Voilà, sur l'activité physique. Ils viennent de publier leurs résultats dans le British Medical Journal et la conclusion est vraiment incroyable.
Sans
l'activité
appel.
Physique réduit considérablement les risques de maladies majeures, cancer du sein, cancer du côlon, maladies cardiovasculaires, accidents vasculaires cérébraux et diabète. Mais le hic, c'est quand même, il faut pratiquer. Il faut bouger. Les chercheurs ont essayé d'estimer la posologie optimale d'exercice. Eh bien, c'est plus que ce que recommande l'OMS, au minimum 2h30 d'activité d'endurance d'intensité modérée. Par semaine, comme par exemple la marche d'un pas vif, le jardinage, ou au moins 1h15 d'endurance d'intensité soutenue, comme par exemple la course, la natation, l'aérobic. Ils ont montré que les gains étaient flagrants, avec des niveaux d'activité environ 6 fois plus importants que ceux minimum recommandés par l'OMS pour rester en bonne santé. Donc le message à retenir, c'est qu'il faut vraiment bouger davantage, mais c'est qu'en augmentant les efforts physiques, les bénéfices santé peuvent vraiment croître rapidement.
Et puis l'activité physique nous aide à préserver notre bonne santé psychique et mentale.
Alors c'est l'autre bonne nouvelle. Non seulement ça agit sur notre stress, sur notre humeur, mais je dirais que notre cerveau, ça le muscle, ça le rend en meilleure forme.
C'est-à-dire que l'exercice physique favorise la formation de nouveaux neurones.
Alors c'est ça qui est extraordinaire, non seulement ça l'oxygène mieux, mais aussi ça favorise la neurogenèse, en particulier dans l'hippocampe, une région du cerveau importante pour l'apprentissage, l'orientation spatiale et la mémoire. Et on a donc montré, des études ont vraiment montré que ceux qui bougeaient avaient un cerveau qui rétrécissait moins vite que ceux qui n'ont aucune activité. Donc c'est la rentrée, faut en profiter pour s'inscrire dans une salle de gym.
Alors vous imaginez le cerveau de notre philosophe Thibaut de Samory qui s'entraîne pour le marathon. Voilà. Merci beaucoup, docteur Patrick Gignès, d'être venu depuis Montpellier. Merci Cécile Barou d'avoir témoigné de votre fibromyalgie. À la technique ce matin, Anne-Laure Cochet et Valentin Hazan. Demain, on s'intéresse à la société du paraître qui affecte de plus en plus nos vies personnelles et professionnelles.